Bonjour à tous, donc merci aux organisateurs de m'avoir invité à présenter aujourd'hui. Je m'appelle Marie Creusevial et je travaille à l'Université de Lausanne. Donc effectivement, mon champ de recherche c'est plutôt la psychologie sociale et la psychologie cognitive. Donc en fait, juste pour me présenter brièvement, je m'intéresse au lien entre motivation et performance, et en particulier comment les processus motivationnels peuvent influencer le fonctionnement cognitif et la performance. Donc j'ai réalisé une thèse là-dessus, que j'ai terminée il n'y a pas longtemps d'ailleurs, et ceci étant, je connais bien le système éducatif français, même si je travaille en Suisse pour l'instant, parce que j'ai fait toute ma scolarité en France jusqu'au master, en fait. Ensuite, je suis partie à Lausanne pour faire mon doctorat. Donc, alors, aujourd'hui, je vais vous faire une présentation à peu près 45 minutes, et puis ensuite, je crois qu'on aura plus le temps d'échanger. Cependant, je veux insister sur le fait que s'il y a des choses que vous n'êtes pas sûr d'avoir bien compris, vous avez des questions, n'hésitez pas à m'interrompre. Ça ne me pose aucun problème, donc surtout, il n'y a pas de souci avec ça. Je travaille dans la recherche, donc nous c'est un champ assez particulier où on fait notamment des expérimentations des fois pour tester nos idées, nos hypothèses. Et donc je sais que tout ça, les détails méthodologiques des études par exemple qu'on a fait, que je vais essayer de vous présenter, vous intéressent pas forcément. Donc si jamais cependant il y a des détails que j'ai oublié de mentionner et que vous comprenez pas bien, vous pouvez m'interrompre, pas de problème. Alors voilà, en gros, en quoi, qu'est-ce que je vais évoquer aujourd'hui et comment on va se diviser ma présentation. Donc, dans un premier temps, je vais évoquer pourquoi est-ce que la recherche de l'excellence et le climat qui est omniprésent, disons, dans les systèmes éducatifs, à l'université, etc., est fortement valorisé et peut amener les étudiants à ressentir une pression évaluative. Ensuite, dans un deuxième temps, je vais aussi vous parler des situations dans lesquelles ce contexte évaluatif peut être particulièrement menaçant pour les élèves. Et puis en dernier, je vais aussi évoquer des études qui portent sur la motivation pour voir comment est-ce que la motivation peut être favorisée justement pour aider les élèves à avoir envie d'apprendre, en fait. Parce que finalement, c'est un peu ça aussi le problème du décrochage, c'est que sur le long terme, on aura envie que les élèves soient intéressés par ce qu'on raconte, et ce n'est pas toujours le cas. Alors, dans un premier temps, je me concentre donc sur les caractéristiques de l'environnement éducatif et la façon dont il a tendance à promouvoir la recherche de l'excellence et le fait de vouloir donc montrer ses compétences. Alors ici, vous avez plusieurs citations d'élèves qui sont américains pour les deux premières citations. Donc une qui dit ici, quand on a la chance de fréquenter l'un des lycées les plus réputés, aucun doute qu'on fera tout ce qu'on peut pour se hisser au-dessus des autres élèves. Une autre élève qui dit, on m'a toujours répété que seule l'excellence académique me mènera au succès et fera de moi une personne accomplie. Et puis une autre élève ici qui dit, on a l'impression de jouer nos vies à 14, 15 ans. Donc en fait, ce que ça tend à montrer, ces citations, c'est que finalement, pour des élèves relativement jeunes, des fois dès le collège en fait, l'environnement éducatif est fait d'une façon que déjà une pression énorme qui est ressentie et l'impression que en fait les notes qu'ils vont avoir sur les tests vont être déterminants et avoir des conséquences très importantes, des enjeux très forts en fait pour leur avenir. Et donc cet environnement, il a tendance à vraiment promouvoir et amener les étudiants à vouloir de plus en plus réussir et réussir mieux que les autres, se démarquer positivement des autres, en fait. Donc, plus particulièrement, le problème de départ, c'est que le système éducatif, et c'est vrai pour le système français en tout cas, il a deux fonctions qui sont très importantes, qui sont importantes de façon à peu près équivalente. Ces deux fonctions de l'école, de l'université, etc., c'est dans un premier temps, peut-être la plus évidente, c'est la fonction d'éducation. C'est-à-dire que l'école, elle est là pour apprendre, enfin, les enseignants sont là pour que les élèves acquièrent des connaissances, des compétences, etc. Mais la deuxième fonction, qui est non moins importante, et en tout cas qui est très saillante aussi dans l'environnement éducatif, c'est une fonction de sélection. C'est-à-dire que même si finalement l'apprentissage est censé être pour tout le monde, et on veut éduquer tous les élèves, cette fonction de sélection fait qu'il n'y en aura qu'une partie en fait, qui aura accès au diplôme et qui pourra passer d'une année à l'autre. Donc la fonction de sélection, elle est là pour choisir les meilleurs en fonction de leur performance, en fonction de leurs notes, et c'est ceux-là donc qui pourront avancer dans le cursus. Ces deux fonctions, si on y réfléchit bien, en fait, elles cohabitent, elles coexistent, mais elles sont un peu... elles empiètent un peu l'une sur l'autre, en fait. Elles ne sont pas forcément très compatibles. Si on prend le cas des notes, les notes, c'est de loin, en France en tout cas, et même dans les autres pays d'une façon générale, c'est quand même le système d'évaluation qui est largement le plus présent. Les notes, en fait, elles vont attribuer une valeur au travail d'un étudiant, à un examen. La note va déterminer si l'élève a compris ou non la leçon et ce sur quoi porter l'examen. Donc la note, elle a cette fonction de voir, de tester l'apprentissage. Donc c'est ici ce qu'on a si on regarde un bulletin de classe. Ici, il y aura la fonction informative de voir, ici c'est sur 10, combien est-ce que l'étudiant a obtenu pour savoir s'il a compris ou non la leçon, ou si au contraire il a plutôt échoué. Mais donc la fonction de sélection apparaît parce qu'on peut aussi lire comme ça le bulletin, c'est-à-dire que forcément la note amène de la comparaison sociale. Et ici, dans une classe, quand on note les étudiants, je pense que vous avez tous l'habitude de le faire, quand on note souvent, en fait, on regarde un petit peu les productions, on les compare l'une par rapport à l'autre. S'il y en a une qui est très bonne, on va penser éventuellement à lui donner la note maximum. Et s'il y en a une qui est très mauvaise, on va la noter très en bas. Et ensuite, on va un petit peu voir les autres en comparaison avec ces copies-là. Donc, quand on note, souvent, on a aussi en tête la comparaison sociale, comparer les productions les unes aux autres. Ce qui est perçu par les étudiants, d'ailleurs. Des fois, il y a des pratiques. Moi, je me souviens, pour faire dans l'anecdote, que au lycée, j'avais des profs qui rendaient les copies, des fois, sur une évaluation, dans l'ordre ascendant ou dans l'ordre descendant. Donc, des fois, devant toute la classe, ils commencent par la meilleure, et puis ils descendent, et puis ils descendent, puis ils descendent, et puis tout le monde voit, du coup, qui a eu quoi, etc. Donc, tout ça, en fait, ça promeut la comparaison sociale. Il y a aussi une anecdote intéressante sur le système qui est à l'œuvre en Angleterre. Alors en Angleterre, c'est pas des notes qu'ils mettent, c'est pas des chiffres comme ici en note de 0 à 20. En Angleterre, c'est des lettres qui vont de A à G, donc A c'est la meilleure note, G jusqu'à G. Il y a A+, qui est la note en fait qui est la plus haute, disons. Et puis ce qui se passe en Angleterre, c'est qu'il y a quelques temps, ils se sont rendus compte qu'il y avait de plus en plus d'étudiants, une proportion de plus en plus grande d'étudiants, qui avaient ce A+. Donc c'est-à-dire que par exemple, il y a 6 ans, il y en avait peut-être 3%, et puis ça augmente, et maintenant il y en a à peu près 8% d'étudiants qui ont ce A+. Donc ce qu'ils ont décidé en Angleterre récemment, ça s'est fait juste là, en septembre, c'est qu'ils ont créé une nouvelle note, en fait, qui est le A+++. Et donc cette nouvelle note, elle a pour fonction de discriminer les meilleurs, quoi, si on peut les nommer comme ça. Les 3% meilleurs élèves, donc en fait, je trouve que c'est un exemple assez parlant qui montre que finalement, on a besoin, dans le système, la façon dont il est pensé, on a besoin vraiment de distinguer ceux qui sont tout en haut. Et le but qui est avoué de cette nouvelle réforme, donc qui change le système de notation, c'est vraiment de permettre aux entreprises, d'ailleurs aussi, aux futurs employeurs, de distinguer ceux qui sont vraiment tout en haut et de pouvoir les embaucher éventuellement. À noter d'ailleurs que c'est pour les matières d'anglais et maths. Donc ça regroupe pas toutes les matières, mais c'est vraiment ces matières-là qui sont censées être les plus importantes, en fait. Donc tout ça pour vous dire que les notes, même si elles ont une fonction a priori juste de montrer si l'élève a compris ou non une leçon, elles ont aussi tendance à rendre très visibles les différences, et donc à montrer, à activer des processus de comparaison sociale et à montrer les différences entre les élèves. Et donc, ces évaluations notées, au final, là où elles devraient juste avoir cette fonction de tester les compétences, tester l'apprentissage, souvent elles vont créer une pression. Une pression qui sera plus ou moins forte, disons, en fonction des enjeux, mais qui peut découler du but de l'étudiant, de sa recherche de l'excellence, si vraiment il veut être parmi les meilleurs. Son but sera d'avoir les meilleures notes possibles. Et puis, il y a aussi le poids des attentes qui doit être pris en compte. C'est-à-dire que, finalement, les enseignants, les parents aussi, ont un rôle très important, parce que souvent, ils vont avoir tendance à mettre une pression supplémentaire, parfois, sur les élèves. Par exemple, les bons élèves, il y a des études qui montrent que les très bons élèves, ceux qui ont l'habitude de réussir, finalement, doivent gérer une pression supplémentaire, même aux autres, parce que souvent, les enseignants ont des attentes encore plus élevées sur ces élèves-là. Et donc, même un bon élève qui a, mettons, 17 de moyenne, si un coup il a 15, c'est loin d'être catastrophique, mais ça peut être vécu comme un petit drame, personnel, pour le bon élève qui sent, qui déçoit les attentes des profs et des parents. Donc, du coup, ces attentes peuvent créer une pression à la réussite, une envie de réussir qui peut, au final, mettre un petit peu l'envie d'apprendre au second plan, disons. Et donc, ces sentiments de pression qui découlent de l'aspect menaçant que peut avoir l'évaluation, c'est important aussi de préciser donc qu'il peut être ressenti pas uniquement par les mauvais élèves, mais aussi par les bons élèves, pour les raisons que je viens d'évoquer juste avant. Donc, c'est vraiment tout le monde qui peut être visé par la menace de l'évaluation. Alors, il y a un certain nombre d'études empiriques qui ont été faites là-dessus pour essayer de voir quelles sont les conséquences académiques de la recherche de l'excellence. Donc, on appelle ça la poursuite du but de performance, c'est-à-dire vouloir faire mieux que les autres, vouloir avoir les meilleures notes possibles, etc. Et donc, il y a un certain nombre d'études qui sont faites là-dessus. En fait, les chercheurs s'intéressent beaucoup à cette question pour la raison que je viens d'expliquer, c'est-à-dire que le système éducatif, vu qu'il promeut la sélection, il a tendance, du coup, à amener les étudiants à poursuivre cette recherche de l'excellence, vu que l'excellence va déterminer des choses importantes par la suite. Donc, du coup, c'est important, forcément, de voir si vouloir être excellent, vouloir réussir, est-ce que, finalement, ça favorise vraiment la performance ou est-ce qu'au contraire, ça peut la diminuer? Alors, il y a un certain nombre de recherches qui ont montré que la recherche de l'excellence amène des comportements, des attitudes de triche. Alors, par exemple, ça, c'est des choses qui sont pas mal étudiées en ce moment, j'ai trouvé pas mal d'articles de presse là-dessus aux États-Unis, mais aussi en France, d'ailleurs, qui montrent qu'en fait, la pression... Les étudiants qui ressentent une pression évaluative forte ont tendance de plus en plus à prendre des méthamphétamines, des drogues, disons, enfin, je ne sais pas si drogue c'est le mot le plus approprié, mais en tout cas des médicaments qui sont censés booster la concentration notamment et la performance. Et c'est réellement des méthamphétamines, donc des choses qui peuvent être dangereuses pour la santé, mais qui sont censées les aider, par exemple, à pouvoir travailler toute la nuit sur un examen, la veille d'un examen, à être concentré et à vraiment augmenter leur capacité, leur rendement cognitif pour un examen. Donc, ils peuvent être amenés à mettre en danger, en fait, leur santé, juste pour être sûr de bien réussir. Et effectivement, j'avais lu des témoignages là-dessus où ils disaient, mais ça marche, nos amis qui le font ont réellement des meilleures notes ensuite. Donc, si on ne le fait pas, finalement... Ben, on réussit moins bien, c'est pas juste, donc on est un peu obligé de le faire aussi. Aux États-Unis, il y a des choses assez incroyables là-dessus. Donc des comportements de triche qui visent donc à vouloir finalement réussir à tout prix un petit peu. Il y a aussi des études qui montrent que quand on veut faire mieux que les autres, quand on est focalisé sur la note, sur la performance, on va avoir tendance à adopter un traitement de l'information dit de surface. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'on aura tendance, en fait, à travailler un peu au dernier moment, par exemple, à apprendre par cœur la veille de l'examen, ou voilà, en tout cas, ne pas être vraiment concentré sur un apprentissage en profondeur, mais juste apprendre pour le jour de l'examen. Donc là, on voit aisément avec ces deux exemples-là, triche, traitement de surface, qu'en fait, ce qui importe, c'est plus la note, c'est plus la performance, et certainement pas l'apprentissage, en tout cas pas l'apprentissage à long terme, ce qui est quand même un problème. Il y a aussi des recherches qui montrent que vouloir faire mieux que les autres, ça amène peu de persistance après un échec. C'est-à-dire que si la performance est vraiment importante, si on réussit pas tellement bien, on va pas avoir tendance à persister. Et ça sera plus vécu, disons, comme une... Un échec sera plus vécu comme une blessure de l'ego, disons. Et donc, il y aura assez peu de persistance, vu que l'intérêt pour la tâche est quand même réduit. Aussi, une augmentation de ce qu'on appelle la régulation relationnelle du conflit socio-cognitif. Alors, ça veut dire quoi ? Le conflit socio-cognitif, c'est le cas d'un conflit dans l'apprentissage, où, par exemple, deux étudiants, pour prendre cet exemple-là, seront pas d'accord sur le contenu, sur les réponses d'un exercice, disons. La régulation relationnelle, c'est quand, dans un cas comme ça de désaccord, au lieu de réfléchir en profondeur sur les raisons du désaccord, de la tâche, etc., on va avoir tendance à camper sur nos positions et à dire « ben, c'est moi qui ai raison, toi tu as tort ». Donc à vouloir démontrer que l'autre a tort, qu'on a raison. Et donc ce type de, finalement, de régulation du conflit, il n'est pas positif parce qu'il ne permet pas de réfléchir en profondeur sur pourquoi est-ce que l'autre pourrait éventuellement avoir raison, essayer d'élaborer ensemble une réponse commune. Et donc, ils ne favorisent pas, au final, l'apprentissage. Et puis enfin, donc, quand on veut réussir mieux que les autres, on va avoir tendance à percevoir autrui comme une menace et pas comme une aide potentielle. Donc, il y a des recherches qui montrent qu'on va moins aller chercher l'aide. Par exemple, si on ne comprend pas bien un cours, on ne va pas aller demander à l'autre, parce que dans ce cas-là, c'est une façon aussi de montrer qu'on n'a pas compris. Et on va avoir tendance à percevoir les autres comme pouvant potentiellement être meilleurs que nous. Donc c'est, le fait de percevoir autrui comme une menace, du coup, ne va pas trop aider l'échange d'informations. Et donc, on aura moins l'intention de coopérer avec les autres. Je prends l'exemple extrême du concours, où il n'y a que certaines places à la fin, où, disons, le concours va... Il y a un nombre restreint, par exemple, de places à l'examen. Il y a des situations donc où finalement, si on coopère avec les autres, on va potentiellement leur donner des informations qui pourraient les aider et faire qu'ils nous passeraient devant après et ils seraient meilleurs que nous. Donc on ne va pas avoir envie d'échanger des informations avec les autres. Donc on va rester un petit peu isolé. Et donc tout ça, en tout cas, ne favorisera pas l'apprentissage. Et donc, ce qu'on peut retenir de tout ça, c'est qu'il y a quand même une focalisation sur le résultat, l'envie de réussir, qui met au second plan l'apprentissage et toutes ces questions-là. Alors donc, l'idée de mes recherches en particulier, c'est que le système évaluatif tel qu'il est fait, donc promeut la recherche de l'excellence, et que cette recherche d'excellence et de performance, cette envie de faire mieux que les autres, de faire bien à tout prix, elle va avoir une influence sur le contenu des pensées, et aussi sur la concentration, en fait. Et ça, que ce soit en situation d'apprentissage ou pendant un test, pendant un examen. L'idée, c'est que pendant que je réalise un examen, par exemple, au lieu d'être concentré sur ce que je suis censé faire, réfléchir aux questions, etc., ou aller chercher les informations que j'ai apprises, je vais avoir toutes ces préoccupations-là qui vont prendre la place, en fait, et donc qui vont me distraire. Finalement, je ne pourrais pas être complètement concentrée sur ce que je fais. Donc c'est ça le deuxième point que je voulais évoquer, lorsqu'un contexte évaluatif devient menaçant. L'idée, c'est que ça peut diminuer, ça peut affecter la performance cognitive et la concentration. Donc en fait, c'est ce qu'on appelle une hypothèse de double tâche qui contraindrait la personne à faire deux choses en même temps. D'un côté, à gérer la tâche ou l'activité ou l'examen ou le contenu qu'on est censé apprendre, etc. Et en même temps, en parallèle, la situation menaçante en tant que telle qui demande de la gestion. Pourquoi ? Parce qu'elle peut créer des émotions, parce qu'elle peut créer de l'anxiété, parce qu'elle peut activer des pensées donc de comparaison sociale. Est-ce que je suis assez bon comparativement aux autres ? Est-ce que je suis assez rapide ? Est-ce que je suis en train de faire moins bien, etc. De peur de l'échec. Et donc toutes ces pensées-là, eh ben, elles vont être coûteuses. En fait, elles vont consommer des ressources, de l'attention. Alors tout ça, il faut savoir, donc pour bien comprendre cette hypothèse de distraction, de division des ressources cognitives, il faut retenir une chose importante, c'est que nos ressources attentionnelles sont limitées. C'est-à-dire que forcément, on ne peut pas traiter beaucoup d'informations en même temps. On a une quantité de ressources cognitives, de concentration, de pouvoir de concentration qui n'est pas infini et qui a ses limites. Donc ça veut dire que souvent, quand on fait deux choses en même temps, ben, ça pose un peu problème, on a un peu du mal à gérer les deux en même temps. Là, c'est un peu ça qui se passe, c'est-à-dire que je dois à la fois réfléchir au contenu de l'exercice, du test, etc., et en même temps gérer mes propres préoccupations, qui seraient ici associées à l'évaluation, associées à la menace que je ressens. Et donc, tout ça, ça va amener donc cette situation de surcharge cognitive, dans le cas justement où l'examen, donc ce qu'on pourrait appeler ce qui est ici en bleu clair, donc l'examen, la tâche, etc., est vraiment coûteux et demande vraiment de la concentration. Si en même temps je pense à autre chose, forcément ça va me distraire et forcément donc ça va diminuer mes chances de réussite et de d'apprentissage et de performance. Est-ce que ça va pour ça ou pas de questions ? Okay. Alors maintenant, je vous présente rapidement une recherche que j'ai réalisée. Donc je la présente de façon assez succincte. Encore une fois, s'il y a des détails que j'oublie qui sont importants, n'hésitez pas à me poser des questions. Donc en fait, c'est une recherche où on voulait directement tester cette hypothèse de distraction. Et justement, ce qu'on voulait tester, c'était l'idée que quand on est dans cette situation de contexte évaluatif où on veut montrer ses compétences, où on veut réussir mieux que les autres, où on est dans cette logique de comparaison sociale, où on veut démontrer ses compétences au prof, par exemple, on va être principalement focalisé sur justement les enjeux que pourrait avoir notre succès ou nos échecs. Et donc, le fait d'être focalisé sur ces questions-là, ça va me distraire de la réalisation de l'activité en tant que telle, et donc des processus concrets de réalisation, en fait. Donc en fait, je vais, pour résumer, pour le dire autrement, je vais penser à pourquoi est-ce que c'est important pour moi de réussir, pourquoi est-ce que si je rate, ça va avoir des conséquences néfastes sur ma scolarité, etc. Pourquoi est-ce que si je réussis, au contraire, ça va être bien, et puis ça va être très important, j'ai besoin de réussir, etc. Au détriment du comment est-ce que je vais m'y prendre vraiment pour réussir, c'est-à-dire quels vont être les moyens que je vais utiliser pour mener à bien l'examen. Alors, pour répondre à cette question, ce qu'on fait souvent quand on étudie ces questions justement de fonctionnement cognitif, etc., c'est qu'on fait des études directement en laboratoire. C'est-à-dire que c'est difficile de tester une question comme ça en classe directement, parce qu'il y a beaucoup de variations, etc. Donc, on fait des études qu'on met en place en laboratoire, et ces études, on les fait passer à des étudiants, et ensuite on regarde, en fait, on va manipuler certaines choses, certaines consignes, pour essayer de manipuler le contexte, et puis on regarde ensuite comment est-ce que ça influence la performance. Donc, dans cette étude, ce qu'on demandait aux étudiants qui venaient faire l'étude, et la façon dont on mesurait la performance, c'est qu'on leur demandait de résoudre des problèmes arithmétiques qui se présentaient comme ceci. Alors, ça ne doit pas vous dire grand-chose comme ça, mais en fait, donc, on leur explique quand ils arrivent au labo, on leur explique comment est-ce qu'ils doivent résoudre ce type de problème. Donc ici, ça implique en fait de faire d'abord la soustraction, donc ils doivent faire 51 moins 19, et ensuite de diviser le résultat final par le résultat intermédiaire par le dernier chiffre. Donc ils font ici 51 moins 19, donc ça fait 32, et ensuite 32 divisé par 3. Tout ça, ils doivent le faire de tête, et à la fin, ils doivent juste dire si le résultat final, c'est un nombre entier ou non. Donc, c'est pas très important, mais c'est juste pour vous montrer que c'est une tâche qui implique quand même d'être bien concentré et qui implique d'avoir toutes ses ressources à disposition, en fait. C'était ça qu'on voulait, en tout cas. Donc ici, ce qu'on fait, c'est que dans un premier temps, on mesure leur performance de base. Ensuite, il y a une consigne qui vise justement à manipuler un contexte évaluatif. Donc là, on essaye de reproduire des ambiances justement d'évaluation classique de classe. Et ensuite, une fois qu'ils ont lu ces consignes, ils passent à un deuxième bloc de problèmes et puis on compare tout simplement la performance entre les deux. Donc dans cette étude, on a mis en place quatre conditions différentes. On avait une condition contrôle où on ne donnait pas de consigne évaluative particulière. Et dans la deuxième condition, on induisait ce qu'on appelle donc le but de performance, c'est-à-dire qu'on mettait en place un contexte évaluatif. En particulier, on disait aux étudiants, maintenant, donc vous allez faire la tâche et puis on va évaluer votre performance. C'est-à-dire qu'à la fin du test, quand vous aurez fini, on va vous donner une feuille où il y aura votre note, donc votre score en fait, qui sera calculé sur votre rapidité et sur les réponses justes. Et puis, on vous donnera aussi votre classement. Donc ça, c'était censé, disons, reproduire un peu un contexte un peu fortement évaluatif. Et puis, dans les deux autres conditions, la condition 3 et la condition 4, en plus de cette consigne de évaluative, on leur demandait de remplir une petite feuille qui était censée donc les faire réfléchir soit à pourquoi est-ce que c'était important pour eux de le faire, soit à comment est-ce qu'ils allaient s'y prendre. Qu'en fait, je ne sais pas si vous voyez bien là, ou non, vous ne voyez pas trop. Si. Donc en fait, ils devaient répondre à un diagramme qui ressemblait à ça. Donc tout en haut, il y avait écrit « Comment allez-vous... c'est moi qui n'arrive pas à lire en fait. Comment allez-vous essayer d'obtenir la meilleure performance possible ? Donc là, c'était eux qui devaient réfléchir et donner leur réponse. Donc ici, les réponses classiques qu'on avait, par exemple, c'était en essayant de me concentrer sur la tâche, en me concentrant sur les opérations mentales, en faisant la soustraction puis la division. Donc là, c'était censé en fait les faire réfléchir aux moyens par lesquels ils allaient essayer vraiment de bien réussir la tâche et d'avoir une bonne note. Puis dans la dernière condition, c'est un peu pareil, sauf que la question, c'était « Pourquoi est-ce que vous allez essayer d'obtenir la meilleure performance possible ?» Donc là, c'était censé justement les focaliser sur les enjeux liés à la réussite. Et là, les réponses qu'on a eues, c'était « Pour être la meilleure, pour me distinguer des autres, parce que je veux me prouver que j'en suis capable, etc. » Donc l'idée ici, c'était d'induire un état d'esprit par rapport donc à ce contexte évaluatif, soit concret, donc réfléchir aux moyens par lesquels je vais essayer de réussir, soit abstrait, donc les implications qu'aurait la réussite à la tâche et les conséquences que ça pourrait avoir. Alors voilà ici le résultat qu'on a eu sur la performance. Donc ici, ce qu'il faut retenir de ce graphique, c'est que en fait, plus c'est élevé et plus il y a amélioration, donc meilleure est la performance en fait. Et plus ça se rapproche de zéro, plus ça veut dire que la performance est basse. Donc ce qu'on a montré avec un test statistique, c'est qu'en fait, dans la condition sans consigne particulière et dans la condition consigne concrète, comment je vais m'y prendre, la performance est meilleure que dans la condition où il y a simplement contexte évaluatif, et dans la condition où il devait réfléchir à pourquoi est-ce que je dois réussir. Ce qu'il faut retenir de ça, en fait, c'est que, finalement, ici, on a une mesure de performance qui montre quand est-ce qu'il y a de la distraction, ou quand est-ce qu'on est pleinement concentré. Et il semblerait que dans ces deux conditions, il y ait effectivement de la distraction, il y ait moins de focalisation sur la tâche, ce qui amène une performance plus faible. Toujours dans la même étude, on a quelque chose qui complète un peu ce résultat. À la toute fin de l'étude, on leur demandait de lister leurs pensées, les pensées qu'ils avaient eues pendant qu'ils faisaient la tâche. Et donc, on leur demandait, voilà, maintenant, on vous donne une feuille blanche, et puis écrivez ce à quoi vous avez pensé pendant que vous résolviez les problèmes, pendant la phase évaluée. Et puis donc, en fonction de ce qui était écrit, ensuite, on a codé, en fait, les pensées qui étaient données. Et en particulier, on a codé toutes les pensées qui étaient liées à la résolution de la tâche. Par exemple, voilà, j'ai vu qu'il y avait des problèmes complexes, des problèmes plus faciles, je pensais aux calculs mentaux, je réfléchissais aux stratégies de résolution. Tout ce genre de pensées-là, on l'a mis dans cette catégorie qu'on a appelée donc pensées liées à la tâche. Ici, c'est le résultat qu'on a eu toujours pour ces quatre conditions, avec ici, donc, en abscisse, le... non, en ordonnée, pardon, la proportion de pensées liées à la tâche. Donc ici, plus c'est élevé et plus la... cette proportion est élevée, en fait, par rapport à leur pensée globale, disons. Il y a toutes les pensées qui sont rapportées. Ce qu'on remarque ici, c'est qu'on a le même effet que précédemment sur la performance, c'est-à-dire que dans la condition où il n'y avait pas de consigne évaluative et dans la condition où il y avait donc réflexion sur comment je vais m'y prendre, par quels moyens, ce qu'on voit, c'est qu'il y a plus de pensées liées à la tâche qui sont dites que dans les deux autres conditions, la condition contexte évaluatif et la condition réflexion sur pourquoi c'est important pour moi de réussir. Donc ça semble montrer, en tout cas, que effectivement, quand on est dans un contexte fortement évaluatif, qu'on veut bien faire, qu'on veut bien réussir, qu'on veut faire mieux que les autres, on pense moins à la tâche, tout simplement. On est moins concentré, moins focalisé sur la tâche. Et puis ici, une analyse qu'on appelle analyse de médiation nous montre en fait que cet effet que je vous ai montré, le premier graphique, cet effet des manipulations expérimentales sur la performance, il est en partie expliqué justement par cette focalisation sur la tâche. Et que donc ici, l'effet qu'on a là-dessus explique partiellement le résultat sur la performance. Alors, je vais enchaîner avec une autre étude que je vous présente brièvement, qui a été faite par une collègue de Lausanne. Donc, cette étude a été faite chez des enfants cette fois-ci. Là, celle que je vous ai montrée, c'était chez des étudiants de l'Université de Lausanne, donc qui avaient à peu près 20 ans en moyenne. Ici, c'est plutôt des enfants donc, qui ont une moyenne d'âge de 11 ans. Donc, ça devait être au collège, je pense, début de collège. Et puis, cette étude s'intéressait à la question de savoir si faire des erreurs, est-ce que finalement, ça ne serait pas classiquement interprété par les étudiants comme je montre mon incompétence et pas seulement je suis en processus d'apprentissage. Autrement dit, au lieu de voir l'erreur comme quelque chose de normal dans l'apprentissage, tel que ça devrait être le cas, finalement, l'erreur serait interprétée comme le fait de montrer que je ne suis pas assez compétent. Alors, pour tester cette idée, je vous explique la méthode assez rapidement. Donc, il y a 2/3 des élèves qui participaient à l'étude qui devait dans un premier temps résoudre 3 anagrammes très complexes. En fait, tellement complexes qu'en fait, le but c'était vraiment qu'ils réussissent pas, en fait. Donc d'amener un sentiment d'échec. Ensuite, dans un deuxième temps, il y avait une discussion avec l'expérimentateur, justement, sur le ressenti de la difficulté et de l'échec. Et donc, c'est ici qu'il y avait une petite manipulation expérimentale avec 3 conditions différentes. Et donc, en particulier, la première manipulation expérimentale, c'était donc celle où il y a les consignes derrière moi, où en fait l'expérimentatrice discutait avec chaque élève en disant ben voilà, donc est-ce que tu as eu l'impression d'avoir des difficultés? Donc là, l'enfant répondait oui, effectivement, j'ai pas réussi. Et donc là, la consigne, donc ce qu'elle disait pendant cet échange avec l'élève, c'était ben tu as peut-être des difficultés, effectivement, mais c'est normal, c'est parce que tu ne connais pas ces exercices, tu es en phase d'apprentissage, et donc le fait d'éprouver des difficultés, c'est quelque chose finalement d'assez cohérent et d'assez logique, vu que c'est la première fois que tu résous ce type de problème. Et puis ensuite, dans la consigne, il y avait un parallèle qui était fait avec l'apprentissage du vélo, où en fait l'expérimentatrice disait à l'élève, ben, rappelle-toi quand tu as appris à faire du vélo, si tu te souviens bien, c'était très difficile au début, et ça t'arrivait de tomber, de rater, etc. Mais tu pensais que c'était normal et que finalement, ça faisait partie de l'apprentissage. Et donc, tu as pu voir avec le temps qu'après, ça allait mieux, tu réussissais mieux, et maintenant, tu sais faire du vélo, etc. Et bien là, c'est la même chose avec ces exercices. Tu es en phase d'apprentissage, tu ne peux pas réussir du premier coup. C'est un peu comme le vélo, ça prend du temps. Et voilà, et c'était simplement... ici l'échange qu'elle avait avec chacun des élèves. Ça, c'est pour la première condition. Pour la deuxième condition, il y avait aussi comme ça un échange avec l'élève, mais où on disait simplement, ici, dans cette étude, on s'intéresse aux différentes stratégies de résolution de problèmes. Donc c'était quelque chose d'un peu neutre, disons, qui n'était pas censé amener cette reformulation de l'apprentissage et de la difficulté, comme c'était le cas dans la première condition. Enfin, il y avait aussi une troisième condition que j'ai appelée standard, où il n'y avait pas de résolution de problèmes complexes au début, et où, en fait, les élèves attaquaient directement avec le test. Donc ici, c'est la dernière phase pour les deux premières conditions, et c'est simplement ce que devaient résoudre les personnes de la troisième condition. Donc ici, c'est le résultat qui est obtenu avec en ordonnée la performance au test. Donc ici, plus c'est élevé, et plus ils ont bien réussi justement ce dernier test qui était à la dernière partie après les consignes que je vous ai expliquées. Donc ici, ce qu'il faut retenir, donc c'est sur les items les plus complexes que l'effet ressort ici. Voilà. Ce qu'on peut voir en fait, c'est que dans la condition avec cette réinterprétation de la difficulté, c'est les barres qui sont noires, la performance est plus élevée que dans les deux autres conditions. Et ça, on l'a les deux fois pour les deux types de problèmes. Ouais, alors je me suis trompée. Non, alors je me suis trompée, c'est avec. Ouais, j'ai dû inverser quand je l'ai réécrit, en fait. La barre noire, c'est avec réinterprétation. Et la grise, c'est sans réinterprétation. Je corrigerai ça. Bon, en tout cas, ce qu'il faut retenir, qui est vraiment intéressant, les deux choses qui sont intéressantes dans ce résultat, c'est déjà de voir que avec une simple petite consigne qui essayait de faire le parallèle justement avec l'apprentissage du vélo, en disant l'apprentissage c'est quelque chose qui prend du temps, on réussit à augmenter la performance. On voit que la performance, elle est significativement plus élevée que dans les deux autres conditions. Dans les deux autres conditions, donc blanc et gris, il n'y a pas de différence, en fait. Donc, une simple petite consigne comme ça, qui vise à faire un petit speech, justement, sur l'apprentissage, ça peut prendre du temps, etc., a le pouvoir d'augmenter la performance. Ce qui montrerait que, finalement, la performance des élèves, ce n'est pas quelque chose de figé. C'est quelque chose qui peut être très variable et qui peut être influencé par des manipulations qui semblent complètement subtiles, comme ça. Une question. Faites comme si c'était un seul, en fait. Parce que c'est deux types de problèmes qui sont complexes, les deux, mais qui représentent la même chose, en fait. Et puis donc, oui, l'autre chose qui est intéressante, finalement, c'est de voir que dans la condition blanche, ici, standard, où donc il n'y a pas de consigne, on peut voir que l'effet, c'est le même que dans la condition où ils ont dû résoudre des items complexes sans réinterprétation de la difficulté. Ce qui tendrait à montrer qu'en fait, dans des conditions traditionnelles d'évaluation, quand les étudiants ou les élèves, des élèves jeunes ici, doivent résoudre un test, spontanément, ils vont réagir, en tout cas, comme dans la situation où ils étaient en échec juste avant, on avait induit de l'échec juste avant, dans la deuxième condition, et donc que finalement, la situation serait prise avec une sorte de... comme une sorte de menace, en quelque sorte. Et on voit qu'ici, la performance est moins élevée ici, à chaque fois, que par rapport à la barre noire. Donc, en tout cas, la performance cognitive, ça peut être influencé par pas grand-chose, des fois. Alors, ensuite, j'en viens à la dernière partie. Je voulais quand même vous dire un mot sur, justement, ce qu'on peut faire pour essayer de favoriser la motivation, l'autonomie chez les étudiants. Jusque-là, je vous ai présenté des résultats sur la performance cognitive. Cependant, je pense que vous savez aussi que le problème, finalement, pour un enseignant, c'est de pouvoir essayer aussi de motiver tout simplement l'élève à apprendre. Parce qu'il y a le problème du décrochage, souvent, ça vient aussi de tout simplement d'élèves qui ne sont plus vraiment motivés à apprendre, qui n'ont pas forcément envie d'investir de l'effort. Et donc, sur une année entière, sur un semestre ou sur... une longue période comme ça où on va suivre un étudiant, finalement peut-être la problématique la plus importante, c'est de susciter leur intérêt, l'envie d'apprendre. Alors comment on peut s'y prendre pour donner envie d'apprendre ? Donc il y a des choses un peu bizarres qui ont été expérimentées quelquefois. Alors ici, il y a un exemple d'une école en Suisse où ils expérimentent la technique de donner de l'argent pour une bonne note. Donc, alors le système de notation en Suisse est entre 0 et 6. Donc 6, c'est la meilleure note, en fait. Dans cette école, ils donnent 12 francs pour un 6, et etc. Et donc, ils récompensent pécuniairement les étudiants. Donc, ça donne des résultats qui sont contestés. En tout cas, c'est pas une méthode qui fait vraiment consensus. Je pense que vous comprenez pourquoi. Même pour des parents, en fait. Souvent, quand on veut que nos enfants travaillent, on peut être tenté de dire si tu as une bonne note à l'examen, on va te donner, je sais pas moi, 10 euros. Ou... Parce que le problème de ces techniques, c'est que sur le court terme, elles marchent bien, en fait. C'est-à-dire que l'élève, effectivement, il va travailler plus parce qu'il a envie d'avoir les sous ou d'avoir la récompense. Cependant, cette méthode, elle a deux problèmes majeurs. Le premier, c'est que, ce qu'on voudrait, et je pense que c'est le but de ce type d'intervention, c'est en fait que l'étudiant travaille plus ou l'élève travaille plus, même une fois qu'on arrêtera, de les récompenser. Seulement, ça ne marche pas comme ça, parce que quand on promeut comme ça, quand on essaye de promouvoir le travail avec une rémunération, ce qui va se passer, c'est que l'étudiant, l'élève, il va travailler pour avoir la récompense et pas pour l'apprentissage en tant que tel. Donc, il va travailler, mais dès qu'on arrêtera de donner une récompense, il travaillera plus. Il travaillera que pour ça. Et le deuxième problème majeur, c'est que, finalement, vu que la récompense, l'obtention de la récompense compte plus que l'apprentissage, souvent, l'élève ici, il va être tenté de passer par le chemin le plus court. Et le chemin le plus court, ça peut être, j'en ai parlé au début, ça peut être la triche, ça peut être apprendre n'importe comment la veille de l'examen ou ce genre de choses. Donc finalement, on promeut pas le travail et donc c'est pas une bonne méthode, mais je pense que je prêche des convaincus de toute façon que vous auriez pas forcément adopté cette technique pour motiver vos élèves. Donc, cette question. En plus, c'est vrai, oui. Donc, cette question-là, en fait, elle touche au problème de la motivation. Il y a un modèle qui distingue justement deux types de motivation, qui sont la motivation intrinsèque et la motivation extrinsèque. Donc en fait, ce qui se passe, c'est que le type de motivation qui est le plus favorable à l'apprentissage, qui est le plus favorable même au bien-être et à tout un tas de conséquences, même physiologiques, c'est la motivation dite intrinsèque. C'est-à-dire le fait de faire quelque chose juste pour le plaisir qu'on en retire, l'envie de le faire, la curiosité, l'envie d'explorer, l'envie d'apprendre, etc. Donc effectivement, c'est relié à ce qu'on appelle l'autonomie, c'est-à-dire que l'élève qui a une motivation intrinsèque va lui-même s'engager dans certains comportements, faire preuve d'exploration, de curiosité, d'envie de maîtriser le contenu et va ressentir, du sens dans l'envie d'apprendre. Sensation de cohérence avec tout simplement l'envie d'augmenter ses connaissances, juste pour l'envie de le faire. Donc, effectivement, ça, c'est un peu la motivation idéale. Bon, c'est assez rare quand même de faire quelque chose juste pour ça. Et donc, à l'opposé, à l'extrême opposé, la motivation extrinsèque, au contraire, c'est le fait de faire quelque chose juste pour avoir, soit pour éviter quelque chose de négatif, soit pour éviter une menace, une punition, etc., soit pour obtenir une récompense. Donc typiquement, les situations de compétition, tout ce qui est rémunération, donc on en parlait juste avant, l'argent, les récompenses monétaires ou les récompenses médailles, etc. La peur de l'échec aussi, donc pour le versant négatif, vouloir éviter l'échec, vouloir éviter une menace, etc. Donc ici, c'est vraiment l'extrême opposé. Motivation extrinsèque, c'est le fait de faire quelque chose juste pour éviter un résultat négatif. Donc alors ça, il faut vraiment penser à un continuum. C'est-à-dire que je disais, c'est assez rare quand même de poursuivre quelque chose juste de façon intrinsèque, mais il y a vraiment un entre-deux. C'est-à-dire que sans être forcément d'un côté ou de l'autre, un étudiant peut avoir compris qu'il doit travailler, qu'il doit connaître bien un concept, par exemple, plus parce qu'il a compris que ça va lui servir, par exemple, que s'il veut vraiment faire ce métier, le métier qu'il vise, il a besoin de connaître ce concept. Donc ça, c'est plutôt de l'internalisation, ce serait quelque part entre les deux. Donc, il y a beaucoup d'études qui montrent que, en fait, les notes, tout simplement, diminuent la motivation intrinsèque. Donc, les notes, le simple fait de donner des notes aux élèves, ça va avoir tendance à diminuer justement cette envie de curiosité, d'exploration, l'intérêt pour la tâche. Et ça, c'est quand même assez important parce que ça peut déterminer des choses telles que l'envie de continuer l'activité, dans, par exemple la persistance, le fait de, par exemple, de chercher des informations sur un thème après qu'il ait été traité en cours et après avoir eu l'examen. Donc ça, c'est un bon exemple de persistance justement. Est-ce que je vais avoir envie d'explorer ou je le fais que pour l'examen? Tout ça, donc, ça sera plutôt diminué par le fait de recevoir des notes. À l'inverse, par exemple, les évaluations fondées sur les commentaires, donc pas donner des notes, mais juste donner un commentaire informatif sur la production de l'étudiant, au contraire, ça n'aura pas cet effet négatif sur la motivation intrinsèque. Donc, j'arrive à peu près à la fin. Donc, juste pour résumer, donc des avantages de la motivation autonome, donc celle qui est fondée justement sur la motivation intrinsèque, c'est pas négligeable parce que il y a pas mal d'études qui ont montré l'effet bénéfique que ça peut avoir. Donc sur la persistance, j'en parlais juste avant, sur l'effort, on va plus engager d'efforts quand on est intrinsèquement motivé par quelque chose, sur la performance, sur la créativité, aussi sur le bien-être tout simplement en fait. Parce que finalement, ces situations de menace, d'envie de réussir à tout prix, qui poussent, voilà, j'en parlais avant, même à prendre des médicaments pour booster sa capacité cognitive, toutes ces choses-là, c'est finalement mauvais aussi pour le bien-être tout simplement de l'élève. Et même pour des variables physiologiques qui vont avec, ça crée de l'anxiété et on sait que l'anxiété a tout un tas de conséquences assez néfastes, donc en termes physiques disons. Donc voilà. Et puis j'en viens à la conclusion. Donc évidemment on aurait envie de booster l'autonomie, de favoriser plutôt l'intérêt chez l'étudiant. Cependant, malgré toutes les bonnes résolutions qu'on peut avoir, c'est une note un peu sombre pour terminer ma présentation, mais malheureusement c'est un peu compliqué aussi parce que l'excellence, la notion d'excellence, de sélection des meilleurs, c'est quelque chose qui est présent partout en fait, mais vraiment partout, dans tous les, disons, dans même dans le sport par exemple, si on regarde les compétitions sportives. Souvent, celui qui arrive deuxième, c'est assez frappant de voir que celui qui arrive deuxième, il est décrit comme, c'est un échec, disons. Il faut être premier, quoi. Donc, si on est deuxième aux Jeux Olympiques, c'est un ratage complet. Donc, voilà, c'est pour dire que finalement, la notion d'excellence, c'est quelque chose qui nous suit en permanence, qui est promu tout le temps. Et je vais vous dire même que dans la recherche, moi, dans notre laboratoire et dans le champ de la psychologie sociale, on parle beaucoup de ces sujets-là, mais ça ne nous empêche pas d'avoir des récompenses aussi, de meilleurs articles, de la meilleure présentation, de meilleurs posters, de meilleurs, etc. Donc, au final, nous aussi, on est un peu atteints par ça, malgré le fait qu'on l'étudie et qu'on sache tous les effets négatifs que ça peut avoir. Donc voilà, je crois que j'ai fini. pour la présentation. Donc je serai ravie d'entendre vos questions. Et puis, en tout cas, merci pour votre attention.